Bonjour mesdames et messieurs. Alors, comme toujours dans ce genre de manifestation, il convient de remercier les organisateurs de permettre une rencontre entre un public. Donc je vous remercie d'être là aujourd'hui, car si vous n'aviez pas été là, eh bien la rencontre ne se faisait pas. Bien. Je suis effectivement ergothérapeute et j'ai eu le plaisir d'être dirigé dans cette thèse de sciences cognitives. La cognition, pour le dire très, très simplement, c'est d'essayer de comprendre comment le cerveau traite de l'information et produit de la connaissance. Voilà. C'est une thèse de science centrée sur quelque chose d'un peu spécifique. Je ne vais pas parler de ça, fort heureusement. Je vous ennuierai et vous endormirai probablement assez rapidement. Mais effectivement, dans cette thèse, en tant qu'ergothérapeute doctorant, j'ai abordé un certain nombre de choses qui, moi, me paraissaient très importantes dans mon parcours professionnel en tant qu'ergothérapeute. Et ce que votre organisatrice, Bénédicte, m'a demandé de venir aborder avec vous aujourd'hui, à savoir, dans mon expérience clinique, la rencontre et le travail avec les familles dont un des membres est handicapé. Pour poser le problème tout de suite, je dirais, patient handicapé, moi je viens du monde de l'hôpital. Et à l'hôpital, on ne dit pas personne en situation de handicap. Vous savez, c'est nouveau au terme. On dit c'est un patient, c'est un malade. Et vous le savez, quand on arrive à l'hôpital, on est souvent malade. Et à l'hôpital, j'ai rencontré, parce que je suis rééducateur, des personnes qui arrivaient malades et qui se trouvaient handicapées. Et l'hôpital n'est pas un milieu accueillant pour le handicap. On ne pense pas de handicap à l'intérieur de l'hôpital. Et c'est bien parce qu'on ne pense pas le handicap à l'intérieur de l'hôpital qu'en tant qu'ergothérapeute, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il faut fabriquer un autre point de vue pour pouvoir aider et les patients et les familles. Et l'idée de cette consultation, elle est née en 1987 avec Jean-Marc Destaya, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, qui est médecin psychiatre, médecin MPR, c'est un médecin de rééducation. Et puis nous avons bricolé à tous les deux une consultation, c'est-à-dire on a commencé à rencontrer les familles. Et nous l'avons fait dans un service de rééducation, vraiment très classique, qui était dirigé par le professeur Jean-Michel Mazot, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et les premières consultations, je dis ça entre guillemets, que nous avons faites, étaient des consultations où moi, on travaille en tant qu'ergothérapeute, était de repérer comment, dans les équipes, nous produisions de la maltraitance. Alors, ce n'est pas une maltraitance physique, mais c'était une maltraitance par la négligence, l'ignorance, le refus et le rejet de ce qui faisait la spécificité des familles. Alors, j'ai fait une thèse de science. Et alors, j'avais prévu aujourd'hui 150 diapositives, vous voyez, c'est un truc. Et alors Bénédicte me dit, ça va non, il faut vraiment que tu en fasses beaucoup moins. Alors, comme je suis arrivé un petit peu tôt tout à l'heure, je me demandais un bureau, puis j'ai supprimé plein de diapositives. Il m'a resté 70. Mais, si vous voulez bien, je vais me permettre de naviguer un peu sur quelques diapositives, simplement pour fixer quelques idées. Et puis, l'objectif, c'est pas de vous informer, de vous former, mais d'essayer de créer des liens avec vous sur ce que moi j'ai vu quand j'ai rencontré ces familles à l'intérieur de l'hôpital. Et quand j'étais en train de travailler, c'est-à-dire en train de supprimer les diapositives, il y avait deux personnes à côté de moi, dont je ne connais pas le nom, mais elles m'excuseront, et elles étaient en train de parler de leur expérience quand elles rencontrent des équipes. Alors j'ai entendu parler d'ESA, j'ai entendu parler de SAVS, ce genre d'institution. Et elle racontait à quel point elle se sentait démunie face à des équipes qui les ignoraient. Et je me dis, super, on est en 2014 et ça continue. Eh bien, en 1987, nous avons commencé à essayer de travailler sur cette forme de maltraitance qui est l'ignorance et le refus et le rejet de l'histoire des familles. Alors, Il est sympa cette diapositive, vous voyez, c'est le Beatus de Saint-Sever. C'est, pour alléger un peu le discours, il y a quelques images que je trouve particulièrement belles. Parfois je fais un commentaire, parfois pas. Mais ça nous a paru extrêmement intéressant d'illustrer un propos un peu obscur avec des choses qui existent déjà depuis quelques siècles. qu'on peut relire de cette manière-là, quand on voit l'évolution de l'humanité. La première petite histoire que je vous raconte, et c'est celle qui a donné un peu naissance à cette consultation, c'est, j'ai pas précisé mon contexte, le service de rééducation c'était essentiellement pour des personnes traumatisées crâniennes ou ayant un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire une altération de la cognition. Le cerveau est touché, altération de la cognition, ça donne des troubles cognitifs, des troubles du comportement. On reçoit le monsieur, il a eu un traumatisme crânien. Traumatisme crânien grave, et ce traumatisme crânien grave, eh bien, il évolue comme la nature lui permet d'évoluer. C'est-à-dire, il se réveille, il commence à récupérer un peu la motricité, puis la parole, et c'est là où les rééducateurs commencent à arriver. C'est-à-dire, quand le pronostic vital est assuré, ils vont continuer à vivre, puis on voit qu'ils progressent, ils vont dans les services de rééducation. Et là, je rencontre ce monsieur. Et ce que je constate, alors je fais mon boulot d'ergothérapeute tranquillement avec lui, donc je commence à faire des évaluations, tout ça, bon. Et puis je constate que ce monsieur a un abord très particulier avec moi. Il est très inquiet, tout le temps. Il réussit ce que je lui propose, donc je complexifie de plus en plus mes évaluations, mais il réussit. Et il est très inquiet, il me demande tout le temps, est-ce que ça va, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que ça va, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que ça va, est-ce que j'ai bien fait, c'est bon. Et oui, c'est vraiment très bien, bon, il n'y a aucune difficulté. Il est toujours aussi inquiet. Donc ça me laisse une question, pourquoi ce monsieur est-il aussi inquiet et pourquoi je suis aussi nul pour le rassurer sur ce qu'il est en train de faire. J'en parle en réunion d'équipe, mes collègues rigolent un peu en disant oui, mais enfin, il y a quand même des difficultés, alors tu comprends, sur le domaine de la cognition par rapport à la phase vite, genre, pardon, monsieur, ouais. Et le médecin Jean-Michel Mazot pose la question, est-ce qu'il reçoit la visite, est-ce qu'il a une famille? Oui, évidemment. Est-ce qu'il reçoit la visite de quelqu'un? Et alors l'infirmière dit, oui, il reçoit la visite de sa femme. Elle vient très régulièrement. Peut-être trop. Quoi? Pardon? Elle vient peut-être trop. Ça a été l'occasion de rencontrer monsieur et madame. Au-delà du trouble cognitif, au-delà du traumatisme crânien, on leur pose des questions sur leur histoire. Et l'histoire que je vais vous raconter est la suivante. Alors, c'est pas du tout les diapositives, hein, ça reste toujours pour faire joli, ça. On verra après. L'histoire est la suivante. Ce monsieur est garagiste. Il est propriétaire de son garage. Je ne me souviens plus très bien de son âge, 1987, vous me pardonnerez, mais bon. Il est en train de prévoir la fin de sa vie professionnelle. Donc il est en train de voir comment il peut assurer sa clientèle, vendre son garage et avec le produit de la vente, partir dans les îles. Avec sa compagne, ils ne sont pas mariés. Chacun est divorcé et sans enfant. C'est un couple qui s'est formé sur le tard. L'accident est arrivé alors qu'il faisait essayer une voiture à un client, la très sympathique Lancia à l'époque, il a perdu le contrôle du véhicule, accident, tout le monde va bien, sauf lui et son crâne. Et il était pilote de la voiture. Bien. Donc, ce monsieur n'est pas marié, mais il vit en couple. Je m'interroge, je les interroge sur quelle est votre histoire, quel est votre parcours, on s'y raconte le génogramme, et puis il dit, mais moi je m'occupe des voitures, de la réparation, et mon garage marche bien, mais elle s'occupe de la comptabilité. Ah bon, madame, vous faites la comptabilité? Ben oui, moi je suis enseignante, et depuis il est à l'hôpital, j'ai demandé une disponibilité, et j'assure la comptabilité du garage, c'est-à-dire elle a investi en son absence le garage pour faire que les affaires continuent à exister. Personne ne savait ça. Et évidemment, quand elle vient à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient voir comment il progresse, si elle va pouvoir reprendre son boulot, s'il va pouvoir lui reprendre son travail, et tous les deux reprendre le cours tranquille de leur existence. Voilà un problème qui est posé différemment. On est passé d'un problème cognitif à un problème de couple, qui s'interroge, elle en tous les cas très clairement, sur l'avenir de leur couple. Comment est-ce qu'on construit et qu'on consolide l'avenir d'un couple? Eh bien, le mariage, et le mariage tardif, est une des manières de consolider la vie d'un couple, c'est-à-dire la promesse que l'on se fait devant un tiers, qui est le maire, ou qui est l'Église, de rester unis et de se soutenir et porter mutuelle assistance, vous voyez, ce genre de choses. Et il en faut un moment où le projet de vie allait se concrétiser par le mariage. Et l'accident est intervenu juste avant. Alors elle se dit, qu'est-ce que je vais faire à l'âge que j'ai? Est-ce que je vais rester avec lui? S'il est très handicapé, est-ce que je ne devrais pas divorcer, me séparer et faire autre chose? Bien sûr, la force de la relation fait qu'elle ne peut pas le poser comme ça. Elle ne peut pas le lui dire. Et lui, avec ses troubles cognitifs, sent bien la difficulté dans laquelle il est, mais il ne peut pas l'exprimer de cette manière-là. Le travail de la consultation handicap et famille a été de les interroger, de leur permettre de nous aider à comprendre pour être moins idiots quand on les reçoit. Nous avons filmé cette consultation et la conclusion de la consultation, c'est quand on restitue à la famille ce que nous pensons avoir compris, c'est-à-dire globalement on valide. Est-ce que c'est bien ça que nous avons compris dans votre projet de couple? La vente du garage, partir vivre en Tunisie, et puis, pour la première fois de votre vie, ne pas avoir à travailler et avoir à vivre votre vie de couple. Oui, c'est ça. Nous avons filmé ça. Et nous avons, en équipe, vu cette consultation. Quel était le problème d'entrée? Quelle était la porte d'entrée? La porte d'entrée, c'était, oui, sa femme vient le voir, peut-être trop. Et oui, elle était présente le matin, dès 8h, et vous savez, à l'hôpital, les visites, hein, c'est pas 8h, c'est éventuellement dans l'après-midi. Et puis, quand des tiers extérieurs sont présents à l'intérieur de ce vaisseau spatial, de ce vaisseau amiral qui est l'hôpital, eh bien, ils sont malvenus, donc on leur demande de sortir. Et vous comprenez bien que quand cette dame vient, elle vient pas pour nous emmerder, elle vient parce qu'il y a quelque chose qui l'attire à l'intérieur, et c'est la force de la relation. Et quand nous ne voyons pas la force de la relation, alors nous pouvons devenir maltraitants en refusant, en rejetant l'expression de cette relation. C'est ça la consultation handicap et famille. Cette histoire, vous la comprenez bien. Quelle est la conclusion? Eh bien la conclusion, c'est que quand on montre cette consultation, ce film, cette vidéo à l'équipe, le problème d'entrée qui était « elle vient peut-être trop », tous les thérapeutes se regardent, réfléchissent et disent « peut-être on pourrait changer un peu notre mode de fonctionnement ». Cette dame, si nous avions du temps, je poserais la question. À votre avis, elle est venue plus ou moins? Je sais du sud-ouest, alors je dis plus et moins. Plus? Quels sont ceux qui disent plus? Quels sont ceux qui disent moins? Majorité. Quels sont ceux qui disent pareil? Ok. Eh ben, je viens de Normandie, là. J'ai fait un colloque il n'y a pas très longtemps. Et je vais être normand. Vous avez tous raison. Elle est venue plus les premiers temps. Puis elle est venue pareil qu'avant. Et puis elle est venue moins. C'est-à-dire, quand elle a vu que l'équipe l'a tolérée, que l'équipe l'accueillait, lui disait bonjour, lui racontait ce qui avait été fait avec son compagnon, elle était rassurée. Comme elle était inquiète, elle venait plus. Comme elle voyait que les choses étaient en train de changer, elle venait pareil qu'avant. Et quand elle a vu qu'effectivement son compagnon progressait et que nous étions toujours aussi accueillants, eh bien son problème a disparu et elle est venue moins pour s'occuper du garage en attendant qu'il revienne. La nature fait bien les choses, il a suffisamment récupéré pour pouvoir vendre son garage et mener à bien ce projet de couple. Ça, c'est ce que nous ont appris les familles. Aujourd'hui, eh bien, peut-être dans la discussion tout à l'heure, j'ai bien l'intention d'apprendre quelque chose de vous. Alors, quand je parle de vaisseau spatial, j'ai préparé, tout à l'heure, en écoutant les personnes qui sont organisatrices, je suis allé chercher sur Internet une petite photo. Alors, bon, je vais passer sur ça, sur tous ces genres de choses, vous voyez, j'en ai plein. Voilà. Je vous présente Jean-Michel Mazot. Madame Boucan, vous devez le reconnaître. C'est notre bon Jean-Michel. Alors, c'est notre bon Jean-Michel parce que c'est mon directeur de thèse. Et pour moi, ça a été quelque chose d'important, bien évidemment. Mais c'est surtout quelqu'un d'extrêmement clairvoyant et d'extrêmement habile. Quand nous avons commencé en 1987, nous avons commencé à travailler dans l'ombre avec mon copain et collègue Jean-Marc Dessaillat. Mais nous croyons, à l'époque, nous avons cru que nous travaillions dans l'ombre. Que nenni, il savait parfaitement ce que nous étions en train de faire. Il ne savait pas ce que nous faisions, mais il envoyait le résultat. C'est-à-dire que quand il est en réunion d'équipe et que quelqu'un dit « cette dame vient peut-être trop », il voit l'attention que ça génère. Et nous avons l'habitude à l'hôpital à cette époque d'être maltraitants et soit d'imposer des limites, soit par exemple pour d'autres situations, des patients traumatisés crâniens qui présentent des troubles du comportement. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des troubles du comportement? Quelle est la réponse logique, habituelle, très fréquente? Ça change un peu. Des services de soins. Troubles du comportement, du fou. Troubles du comportement, c'est à l'hôpital psychiatrique. Et donc, combien de fois nous avons été maltraitants en équipe en disant « Oh ben non, il présente trop de troubles du comportement, c'est pas un malade pour nous, il faut l'envoyer en psychiatrie de manière à ce que ça soit un peu posé, puis après on retombera. » Heureusement, nous avons un excellent hôpital psychiatrique qui, quand il voit arriver des patients comme ça, les renvoie illico au service de rééducation en disant « Hé, faites votre boulot, c'est un patient neurologique. » Donc, quand on se l'entend dire une fois, deux fois, on finit par apprendre. Voilà. Mais là, je vous parle d'un temps, on ne fait plus ça du tout, ça n'existe plus. Bien. Voilà. Cette consultation, elle a ce titre particulier qu'elle est pluridisciplinaire, c'est effectivement le titre de l'intervention. Donc, vous voyez le bricolo-thérapeute qui est moi-même, l'ergothérapeute, mais on s'est associé de services d'infirmières, d'assistantes sociales, et puis de psychologue. Psychologue de la santé, qui est Michel Collet, c'est la personne qui est en bas à gauche, et d'Antoinette Proutot, qui est neuropsychologue. Parce que quand on travaille sur la cognition, eh bien, on a eu besoin de s'associer les services de spécialistes. Tout ce petit monde est formé à la thérapie familiale systémique. Non pas pour faire des psychothérapies, mais parce que nous sommes allés chercher dans le modèle systémique qui était utilisé par les thérapeutes familiaux, quelque chose qui nous était utile pour aborder les familles et les concevoir, les percevoir, les comprendre en tant que système. C'est ça que je vais essayer un petit peu d'aborder avec vous, de balayer très très rapidement. Quand on rencontre une famille, on se pose des questions, mais alors, basiques, très simples. Ces familles qui ont accepté de nous rencontrer, elles viennent parce qu'elles ont un problème. Ce problème, il correspond à la manière qu'elles ont de se poser le problème, et c'est le leur. Ce n'est pas le problème du thérapeute et des spécialistes, c'est le leur. Une famille handicapée, elle a une manière bien particulière, de comprendre le handicap d'un de ses membres. Ça, cette configuration, elle est unique. Elle ne se reproduit pas d'une famille à l'autre. Bien sûr, il y a un certain nombre de constantes, mais chaque famille a une histoire particulière, donc chaque famille a une manière particulière de résoudre ou d'essayer de résoudre les problèmes que lui pose le handicap d'un de ses membres. Donc, on essaye de repérer quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, ça à travers l'idée de l'histoire. Quelles sont leurs ressources internes? Les ressources externes, c'est-à-dire les familles ne sont pas isolées. Souvent, elles sont allées chercher du soutien. Et les familles de traumatisés crâniens, c'est là mon expérience essentielle, elles se sont regroupées, ça s'appelle l'association des familles de traumatisés crâniens. Et je pense que quelque part, l'association des paralysés de France est un soutien pour toutes les familles. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des associations. Comment se pose le problème pour eux? Qui a un problème? Comment est-ce qu'il est compris? Je voyais que derrière toutes ces questions, il y a « Et qu'est-ce que vous avez fait? Et quel résultat ça a donné ?» Tout ça sont des questions systémiques. Alors, je disais tout à l'heure, je suis un extraterrestre quand j'arrive ici, je viens de l'hôpital, je viens d'un vaisseau spatial qui s'appelle l'hôpital. Et je ne sais pas si vous connaissez ce film, j'ai posé la question comme ça, à gauche, à droite, non. Mission Toula, c'est un film que j'utilise très régulièrement avec des étudiants en ergothérapie. C'est un documentaire qui a été fait par, évidemment, pour que ce soit bien visible, j'ai pris une image et la pochette est en allemand. Bon, c'est un peu de mal avec l'allemand. Bref, la personne qui a été le réalisateur de ce film, c'est la sœur d'un garçon qui est autiste. Autiste de bon niveau. Voilà, ça porte un nom, mais peu importe. Il travaille dans un ESAT. Et cette fille, elle est, donc sa sœur, elle est journaliste. Et ils sont trois dans cette fratrie. Et l'autre est réalisateur de cinéma. Donc, un autiste, un réalisateur de cinéma, un vidéaste, et puis une journaliste. Et Mission to Lars, c'est le prénom du batteur du groupe Metallica. Et ce garçon autiste, il a un truc dans sa vie. Il a questionné sa famille tout le temps en disant « C'est quand que je vais aller voir là ? C'est quand que je vais aller voir là ? C'est quand que je vais aller voir là ?» Évidemment, on ne peut pas l'amener à expliciter pourquoi est-ce qu'il veut le faire, quel est son objectif, si c'est un projet ou pas. Il n'a pas les capacités de verbaliser et de le dire. Et puis, il n'a pas les capacités de construire ce projet. Et à un moment donné, ce fils des journalistes et son frère décident d'aider leur frère à réaliser ce projet. Et le documentaire, c'est la réalisation et la concrétisation du projet. Je ne vais pas vous raconter le film, parce que si vous ne le connaissez pas, je vous encouragerai fortement à le voir, à le visionner ensemble, à le visionner en famille, à le visionner avec des amis, à le faire voir à des professionnels. Je pense que ça va beaucoup aider les professionnels. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pile poil ce qu'il faut pour pouvoir aider les jeunes ergothérapeutes à repérer et à comprendre ce qui anime les familles. Je raconte pas la fin du film, il faut quand même un petit peu de suspense. Donc je vais balayer un peu les choses et puis séparer le monde de l'hôpital, le monde du soin en deux parties. Souvent on a tendance à considérer la pathologie et seulement la pathologie. Après tout, c'est ça qui fait fonctionner l'hôpital. Et quand on pense de cette manière-là, on se pose la question de la nature, de l'état de cette pathologie et puis forcément la nature de l'esprit humain. C'est-à-dire, s'il déconne un peu, comment ça se fait que dans son cerveau, il y a des choses qui ne marchent pas bien et que ce soit ça le résultat? Eh bien, on est sur un registre qui est celui des modèles intrapsychiques et puis du fonctionnement intrapsychique. Il y a deux manières de le voir, soit la commission, soit, comme vous le comprenez bien, c'est une boutade, hein. On regarde un cerveau et puis on voit comment fonctionne le psychisme. Ou alors, on fonctionne d'une manière un petit peu différente. Et puis, comme je l'ai dit un peu en introduction, on regarde les effets de ce comportement sur autrui, les réactions d'autrui, et puis le contexte où se produit le trouble. Et ça permet de passer de la pathologie à la relation et à la communication. Et la petite histoire que je vous racontais en introduction montre bien comment nous étions centrés sur le symptôme. Et puis petit à petit, grâce à la consultation, ce qui nous ont permis d'apprendre et la vidéo que nous avons vue ensemble, on est passé à la relation et à la communication. On a pu parler avec cette dame, on est rentré en relation avec elle. Dans la mesure où on la reconnaît comme membre de ce système familial, alors elle est moins inquiète, elle est moins anxieuse, elle ne se sent pas rejetée. Du coup, sa tension baisse, et quand sa tension baisse, la nôtre aussi. Donc le problème, il n'a pas changé, il est toujours aussi traumatisé crânien, avec autant de difficultés. Mais ce problème-là, pour eux, est résolu. Et c'est ça, les effets de cette consultation sur l'équipe de soins potentiellement maltraitante que Jean-Michel Mazot voyait. Et c'est là où il nous a aidé à construire cette consultation. Donc on a commencé en 1987 à poser les bases, de cette consultation qui réunit autour du symptôme, c'est-à-dire on pose une question, les équipes, les familles et le patient. Je ne vois pas d'autres acteurs. Si vous en voyez d'autres, vous me dites. On pourrait en voir d'autres. Si je parle de la CIF, la classification internationale du fonctionnement, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Non? Ben j'en parlerai pas. Mais si je vous dis, par exemple, que notre organisation sociale et politique crée des problèmes aux familles, aux équipes et aux patients, vous souscrivez? Ok. La classification internationale du fonctionnement appelle ça des facteurs environnementaux qui ont une influence qui peut être un obstacle sur la vie des familles. D'accord? Un tout petit exemple pour faire comprendre ça, mais je parle à des gens qui le savent bien. Il y a une loi, celle de 2005, la faculté de médecine de Bordeaux et j'ai travaillé avec des étudiants pour faire le relevé de l'accessibilité. L'accessibilité de la faculté de médecine, elle est nulle. Mais à partir de la loi de 2005, il y a eu des moyens. Et avec les moyens, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met des ascenseurs, on fabrique des plans inclinés. Pourtant, le doyen de l'université aurait pu demander, mais il n'a jamais demandé, avant que la loi existe. Mais quand la loi existe, alors, il peut commencer à demander. Et puis, l'accessibilité, vous savez, celle qui devait être résolue en 2015, qui sera un petit peu plus tard. Eh bien, maintenant, on a vu arriver des travaux. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que les étudiants ont pensé que c'était les ergothérapeutes qui étaient à l'origine de ça. Non, c'est la loi. Et c'est l'obligation de rendre les locaux qui reçoivent du public accessibles. C'est ça, le système et politique. Et dans ce triptyque équipe, famille, patient, il faut rajouter les systèmes et politiques, bien évidemment, qui ont une influence. Simplement, à notre niveau, on ne peut pas agir là-dessus, mais vous, oui, l'APF, elle va au ministère, elle va au gouvernement. Les associations, elles ont été présentes pour que cette loi existe. Bien sûr, quand la loi a été imaginée, construite, c'était aussi avec, c'est comme ça que ça se dit, l'impulsion, la houlette de M. Chirac, dont on dit qu'il était sensibilisé à la question parce que dans sa famille, il y avait quelqu'un en situation de handicap. Oui, on peut dire aussi que la France avait tellement de retard vis-à-vis des autres pays européens que ça les a beaucoup, beaucoup aidés à penser les choses de cette manière-là. Mais je déplore. Bon, alors j'ai parlé de ça. Voilà, juste pour fixer les idées, vous comprenez bien que dans la petite histoire que je vous ai racontée, le symptôme que nous avons vu, c'est le stress, monsieur. Le deuxième symptôme, c'est comment cette dame peut être rejetée par l'équipe. C'est un deuxième symptôme. Alors, ce n'est pas le symptôme d'une pathologie, c'est le symptôme d'un dysfonctionnement, c'est le symptôme d'un malaise, c'est le symptôme d'un mal-être. C'est le symptôme de quelque chose qui ne va pas bien et qui pourrait peut-être être amélioré. Un symptôme, on a souvent tendance à penser que le symptôme, c'est une maladie. Non, le symptôme, c'est un signe. D'accord ? Le garagiste, quand il fait un diagnostic, il établit à partir des symptômes ce qu'il va faire. C'est aussi simple que ça. Et votre voiture n'est pas malade que je sache. Donc l'idée, c'est de repérer comment fonctionne ce système pour voir quel sens il s'est construit et comment on peut les aider par rapport à leur sens, pas le nôtre, hein, le leur. Voilà, donc on appelle ça une évaluation neurosystémique du handicap. Neurosystémique parce que d'où je parle, moi, dans ce service de rééducation, c'était la lésion cérébrale, le traumatisme crânien. Mais depuis, nous avons rencontré bien d'autres familles, bien évidemment. Il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, je rencontrais une petite jeune fille qui est en centre de rééducation pour enfants. Elle est dans un centre assez loin de Bordeaux, dont je ne dirai pas le nom, qui s'appelle Service de Béarn. Non, je ne l'ai pas dit. Et cette jeune femme, elle a 19 ans, a été envoyée toute seule à Bordeaux. Donc, sa mise de Béarn Bordeaux, vous voyez, en train, elle est venue à un VSL, je crois. C'est peu importe. Ça représente quand même beaucoup de temps. Et vous savez pourquoi? Pour rencontrer les spécialistes de la consultation handicap et famille. Et elle est venue toute seule. Donc vous voyez la maltraitance dont je parlais tout à l'heure, ça c'est une forme de maltraitance qui lui est imposée. Et vous savez avec quoi elle vient, quels symptômes? Elle présente des troubles du comportement, elle pique des colères terribles et elle casse du matériel. Alors il l'envoie au centre spécialisé à plus de 200 km pour qu'on fasse le diagnostic, c'est-à-dire on ouvre le crâne, on regarde dedans, pourquoi elle fait ça? Et moi je suis démuni, alors je lui dis mais... on ne se connaît pas, expliquez-moi comment ça fait que vous soyez là. Alors elle m'explique que c'est les équipes d'éducateurs. Il y a des éducateurs dans la salle? J'aime bien la faire ça. Mais il y aurait des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des médecins, c'est pareil. C'est l'ensemble de l'équipe qui est d'accord pour dire nous avons un problème avec cette jeune femme et il faut qu'elle aille voir un spécialiste. Bien sûr, ils ne sont pas venus. Donc, en ce sens, ils sont maltraitants. Ils l'ont laissé toute seule. Donc, elle raconte son histoire. Et je l'écoute, j'essaie de comprendre pendant la consultation. Comme elle vient une fois et qu'elle va repartir, je ne vais pas lui demander de venir en voyer, une fois, j'ai mis une heure et demie. Et en une heure et demie, vous croyez qu'elle a eu des troubles du comportement, qu'elle s'est mise en colère, qu'elle a cassé du matériel? Que nini, elle est absolument charmante. C'est vrai, elle est très ralentie. Elle a un vocabulaire qui est assez restreint. Mais si on lui laisse du temps, si on lui propose des mots de temps en temps ou des idées, eh bien ça fonctionne. Et elle raconte sa vie, elle raconte son histoire. Pourquoi est-ce qu'elle est énervée en ce moment? Eh bien, elle est énervée en ce moment, et ça, à chaque fois qu'on lui fait une mauvaise réflexion, elle monte dans les tours, et elle gueule, et elle casse du matériel. Et c'est quoi la mauvaise réflexion qu'on lui fait en ce moment? C'est qu'elle va bientôt partir de ce centre. Mais elle a prévu le coup. Elle est allée faire un stage dans un ESAT. Le boulot lui plaît. Et derrière l'ESAT, elle pense bien avoir son appartement et vivre de manière un peu indépendante. Et quand je lui pose des questions en tant qu'ergothérapeute, comment elle pense gérer son appartement, etc., les choses sont claires dans sa tête. Et elle me dit, mais je ne sais pas pourquoi, les éducateurs, parce que c'est les éducateurs, ils les désignent, mais ce n'est pas que les éducateurs, c'est l'ensemble de l'institution pour dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Disent, non, non, ça ne va pas fonctionner. Non, non, ce projet, non, tu ne pourras pas y aller. Non, non, il faut qu'on trouve autre chose. C'est-à-dire, avant de l'avoir essayé, de l'avoir accompagné, le projet, il est déjà plombé. Elle a 19 ans. Et quand on lui dit que ce qu'elle voulait faire pour partir à l'institution, alors qu'on lui dit, de toute façon, à 20 ans, tu pars. Eh bien, ça la met un peu en colère. Vous voyez? Donc, on voit à travers ce qu'elle dit, l'impact de l'institution sur son projet de vie. Moi, je le qualifierais, si je fais appel au système politique, je dis que ça c'est un obstacle par rapport à son projet de vie. Donc c'est pas elle qu'il faut aider, c'est l'équipe. Mais il n'y a pas que l'équipe dans le jeu, elle a aussi une famille. Là, ça commence à devenir... Voilà. Elle a aussi une famille. Alors c'est un peu compliqué parce que elle a une mère qui a fait cet enfant après avoir rencontré un monsieur, c'est souvent comme ça, hein, c'est rarement... Donc elle rencontre un monsieur. Elle rencontre un monsieur et elle a un enfant. Mais le monsieur, lui, il a... Vous voyez, c'est des rencontres comme ça, il n'est pas resté. Ah ben ça arrive, hein. Et en fait, cette dame avait visiblement le projet de ce que j'en comprends, mais j'aborde pas ça avec elle. J'aborderai ça avec sa mère, quand elle viendra, si elle vient. Mais avec elle, je prends juste quelques informations comme ça, et puis je fais ce qu'on appelle en approche systémique, je fais des hypothèses. Et je me dis, cette dame, en fait, c'est pas un couple qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est un enfant. Et une femme qui veut un enfant, elle le veut pour qui? Pour l'enfant ou pour elle? Merci de l'avoir dit. Oui. C'est ça l'hypothèse que j'ai. Mais le problème, c'est qu'un enfant à 19 ans, ça a grandi. Et l'enfant à 19 ans, il commence à dire, j'ai fait plein de choses avec toi, mais maintenant, je veux ma vie pour moi toute seule. Et donc, à la maison, elle fait quoi? Eh bien, elle pique des crises de colère. Et elle ne casse pas du matériel, parce que c'est le sien. Pas exagéré quand même. Mais elle pique des crises de colère. Et donc, elle dit qu'avec sa mère, c'est quand même assez tendu. Eh bien oui, parce que si elle sort du centre et qu'elle ne peut pas aller à l'ESAT, où est-ce qu'elle va? À la maison. Eh oui, mais... Depuis quand elle n'a pas vécu à la maison? Ben depuis toute sa vie. Donc elle n'allait chez sa mère que les week-ends, c'est-à-dire si une fille a été placée en institution. Donc vous voyez comment la complexité de la question qui est posée par cette équipe en chargeant cette jeune fille de beaucoup de difficultés. Elle se débrouille plutôt pas mal. Elle est mignonne, elle parle lentement, certes. Mais elle est mignonne, elle a des choses qui sont assez claires et elle a besoin d'aide et d'accompagnement. Voilà, c'est ça la consultation handicap et famille. Et maintenant, voilà la fusée qui arrive. Il vous reste une heure et demie pour la fusée. C'est ça? Juste, je plaisante, hein. Juste quelques diapositives pour fixer un peu les choses. Depuis 1987, voilà ce à quoi nous sommes attachés dans cette consultation avec les patients, les familles et les équipes que nous recevons. Et vous avez compris que pour cette petite histoire de cette jeune fille, nous tenons à rencontrer la mère, et là, de l'idée de l'appartenance et du lien avec elle, elle va venir. Mais on lui laisse la possibilité, et c'est la petite jeune fille qui viendra avec sa mère, si elle pense que ce que nous pouvons apporter peut les aider à elle deux. Et puis, les comptes rendus que nous allons faire pour l'équipe, ils viendront ou pas, mais ils vont être un petit peu plus serrés, on va dire ça comme ça. Il ne faut pas les culpabiliser, il faut toujours aider les équipes. Les équipes, elles sont comme les familles, c'est un système humain, il ne se pose que des problèmes depuis l'intérieur. Et souvent, pour solutionner le problème, c'est d'évacuer le problème. Ce qui évite de se poser la question. D'accord ? Donc si le patient s'en va, si la personne s'en va, je n'ai pas à changer de fonctionnement. Donc c'est un fonctionnement logique des institutions et il faut les aider à changer de regard, à évoluer. C'est pour ça qu'on a une consultation pour patients et familles, mais on a aussi des formations pour les équipes, pour les aider à changer de regard sur les situations. Donc depuis 1987, nous travaillons pour faire évoluer, nous espérons, mais il faut croire à ce qu'on fait, sinon on ne le fait jamais. Donc on croit à ça. C'est l'idée de sortir d'une vision qui est seulement centrée sur la pathologie, pour voir la personne qui est derrière, voir dans quel contexte elle vit, c'est-à-dire son environnement. Et dans l'environnement, on les a séparés parce que c'est comme ça qu'on travaille. C'est l'environnement relationnel. Et l'environnement relationnel, c'est d'abord la famille. Après, c'est l'environnement social. Au moins, c'est la famille. Et donc, il faut aider les institutions à passer d'un niveau à l'autre en fonction de ce qui est nécessaire. Un chirurgien qui travaille en orthopédie, il n'a pas grand-chose à faire de travail sur la personne, l'environnement et la famille. Il a à travailler sur un os qui est cassé et à faire le nécessaire. Mais quand il y a des situations de handicap, cette période est souvent révolue. Donc, il faut passer à d'autres types de fonctionnement et les institutions ont des difficultés à passer d'un fonctionnement à l'autre. Pour faire simple, une machine, une voiture, l'ajustement de toutes les pièces entre elles, il est connu. Le nombre de pièces dans une voiture, il est fini. On peut casser une voiture en plein de petits morceaux, et puis la voiture, elle est un petit morceau. Bon. Il suffit de trouver quel morceau qui ne marche pas bien, on le change, et ça fonctionne. C'est-à-dire que la panne dans une voiture, elle est prévisible. C'est un système compliqué, à finalité prédéterminée. Ça, c'est pour faire ça. Globalement, la panne, elle est obligatoire. On peut prendre un autre exemple, les chaussettes dans le tiroir. Au début, on n'a que des paires de chaussettes. 100% de chaussettes ensemble. Il y a 100% de probabilité qu'au bout d'un certain nombre de jours d'utilisation, on se retrouve avec des chaussettes dépareillées. C'est obligatoire. Un système compliqué, c'est compliqué les chaussettes, à finalité prédéterminée. C'est pour faire comprendre. Le deuxième, eh ben, ce sont les familles, donc les éléments qui sont pris individuellement ne sont pas très fiables. On est fragile, on évolue, on vieillit, on est malade, mais l'ensemble est extrêmement solide. Et l'avenir d'une famille, donc d'un système complexe, ce sont les familles, il est imprévisible. Donc l'idée, c'est de pouvoir aider les familles, non pas à redevenir comme avant, vous connaissez certainement cette phrase, mais à devenir comme après. Et pour devenir comme après, il faut chercher quelles sont leurs compétences et voir où leurs compétences sont bloquées. Une petite phrase très, très simple. Alors, lisez-la et ne regardez pas la date en bas. Trop tard, quand je vous dis ça, vous la regardez. C'est pour dire à quel point la médecine de famille, la médecine de campagne, a évolué et à quel point la technologisation, l'utilisation de la technologie pour la médecine maintenant, a mis les médecins dans un certain nombre d'impasses. Les médecins spécialistes, les médecins généralistes, et puis les médecins de rééducation, un petit peu moins pour les médecins de rééducation, qui ont compris qu'il était peut-être urgent de sortir de la pathologie et de travailler avec les familles ou en tous les cas avec l'environnement. J'ai parlé de la CIF tout à l'heure. Si je garde cette diapositive, c'est parce que tout à l'heure, quand j'étais en train de travailler pour réduire le nombre de diapositives, j'ai entendu parler d'outils d'évaluation. Et voilà, le modèle de la CIF, il est relativement simple, compliqué, ça dépend. Mais vous voyez le petit truc en mode gênant. C'est là que c'est une grille de mesure, des limitations d'activité, puis de la restriction de participation. Si vous êtes familier,
qui vous dit familiariser avec le modèle. Parce qu'il y a une efficience pathologique, mais il y a aussi un impact. On fait les choses un petit peu moins bien, un petit peu moins vite. On court moins, on pense moins fort. On court moins vite. On est plus maladroit. C'est l'immunisation magnétique. La conséquence avec les scènes de sitting en général intérieur, c'est que ça a un impact sur la réception de particules. Ce qu'on regarde, c'est les gens qui ont la capacité de faire et s'ils le font véritablement. Et cette chose, il faut
regarder dans l'histoire les facteurs personnels, c'est-à-dire ce qui est en bas. Et notre consultation handicap et famille, elle essaye de faire des évaluations dans tous ces domaines-là. Et nous avons construit cet outil, c'était d'ailleurs un des chapitres de ma thèse, pour évaluer la réflexion de participation, c'est-à-dire essayer de comprendre avec les patients et les familles ce qu'ils font vraiment dans leur vie et où il y a des problèmes, des obstacles, et puis des choses qui sont un petit peu plus facilitatrices pour eux. Je terminerai avec ça. Vous voyez, j'ai retenu mon temps quand même. Merci de votre aide. Par cette petite phrase du philosophe danois Soren Kierkegaard. Alors, il l'a pas dit exactement comme ça, il l'a dit sur 3 pages. Bon. Et on l'a un petit peu synthétisé. Sur Internet, vous trouverez cette phrase qui circule. Après tout, les rencontres que l'on fait avec le public, c'est aussi pour transmettre de l'information. Donc, vous trouverez cette phrase. Toute personne se mettant en projet d'aider une autre personne doit la rencontrer là où elle se trouve, partir de là où elle est. C'est là l'art et le secret d'aider les gens. Voilà, je vous remercie.
C'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a d'autres consultations en France de ce type?
Alors, je disais tout à l'heure, nous sommes les seuls à avoir fait une consultation constituée. Et ça, c'est Jean-Michel Mazot. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était très clairvoyant. Et c'est vrai. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est devenu le projet de service. Vous savez, à l'hôpital, il y a des projets et services qui correspondent au projet établissement. Donc, à un moment donné, il a anticipé, il a dit ça, projet de service. Et donc, la consultation, c'est lui doter d'un temps, de moyens, de personnel, de matériel, etc., etc. Puis de liens avec les différentes institutions. Nous avons travaillé avec depuis le début, je vous l'ai dit, sur la question de la lésion cérébrale et de ses conséquences. Et Lamar Destaya s'est retrouvé un certain nombre de fois au ministère. Et en 2004, il y a une circulaire de la direction la DOHS, direction de l'hospitalisation et de l'offre de soins, qui a émis une circulaire qui recommandait le travail avec les familles, c'est 2004, hein, le travail avec les familles du type de la consultation handicap et famille de Bordeaux. Ça ne répond pas à la question, j'en ai bien conscience, mais je contextualise avant de répondre, toujours. Des fois, je me perds, alors si je me perds, vous me dites, hein. On a fait des formations et l'idée, c'est dans les centres de rééducation, dans les services MPR, d'amener, je l'ai dit tout à l'heure, les équipes à changer le point de vue. Mais pour qu'elles construisent des consultations, il faut que ça passe par une organisation hospitalière dans laquelle les soignants n'ont pas forcément la maîtrise de ça. Donc quand on propose des formations, on demande aussi les cadres et on suggère aussi les cadres et les médecins. Parce que c'est eux souvent qui sont tributaire de l'organisation et donc de la modification des structures. Donc il y a des centres qui ont fait des consultations, il y a des centres qui ne font pas de consultations, mais quand ils ont un problème avec un patient et une famille, ils se réunissent en équipe, et puis ils abordent les familles sans que ce soit véritablement une consultation. C'est-à-dire, c'est intégré dans l'exercice quotidien. Et je pense que c'est une excellente formule parce que ça leur permet de se dédouaner et de se dire, voilà, il faut se former, il faut être thérapeute familial, il faut avoir fait une thèse, un doctorat. Mais non, hein, pas du tout. C'est intégré à l'exercice quotidien. La prochaine étape serait d'aider les professionnels directement dans leur cursus de formation initiale à concevoir le travail avec les familles. Bon, ça, c'est pas gagné, hein. Donc, moi, je le fais avec les ergothérapeutes parce que je suis responsable pédagogique. Moniteur, on appelle ça comme ça, enseignant à l'école d'ergothérapie de Bordeaux. Donc forcément, je le fais avec les ergothérapeutes. Mais dans d'autres professions, ce n'est pas l'objet du tout. Voilà. J'ai répondu à la question, il y a des consultations, si vous me demandez une liste, on n'est pas organisé en fédération. Voilà.
Alors, la question, c'est la suivante. Donc, vous avez mis ça en place au niveau de l'hôpital de Bordeaux, dans un service déterminé. Est-ce que ça fait tache d'huile sur les autres services de l'hôpital?
Vous rigolez? L'hôpital est extrêmement cloisonné. Vous arrivez avec un symptôme particulier à l'hôpital, et suivant le symptôme, vous allez vous retrouver dans un service qui ne fonctionne pas avec les autres. Vous avez un problème, une jambe cassée, vous allez en traumato. Vous avez un problème de cœur, vous irez en cardio. Un problème de poumon, vous irez en pneumologie, etc., etc., etc. L'hôpital est construit comme une machine qui traite des voitures. C'est-à-dire, en fonction du symptôme, on ira voir le système de motorisation, le système électrique, vous voyez, c'est... L'hôpital est conçu comme ça. Mais c'est logique, et c'est normal. Et c'est ça qu'on lui demande, c'est très efficace. Mais l'hôpital, je l'ai dit en introduction, n'aborde pas la question du handicap. Donc, les mentalités sont en train de changer. Il ne faut pas non plus charger l'hôpital, c'est quand même une belle machine. Mais les mentalités sont en train de changer, et on essaye de... On essaye d'aider les thérapeutes à modifier leur point de vue. Ça marche avec les thérapeutes qui ont de l'expérience, c'est-à-dire ceux qui se sont confrontés aux problématiques. Mais les jeunes générations qui sortent des écoles d'infirmières, par exemple, c'est pas encore tout à fait gagné. Donc, vous voyez bien que pour faire changer ça et qu'à la fin, à l'hôpital, cette pensée soit un peu transversale, il faut agir aussi au niveau des instituts de formation.